Nous sommes sur France Inter, bien entendu, en compagnie de Patrick Peloux, dans Nonobstant. Il vous arrive de rire aux urgences? Enfin, il y a des moments où...
Tout le temps.
Ah.
Vous ne tenez pas dans ce métier si vous ne riez pas. Le rire, c'est la dernière chose, c'est la seule chose qu'ils pourront pas nous voler ou taxer. Donc, il faut se marrer. C'est important. C'est important. Je suis pas d'ailleurs dans la culture de ceux qui veulent rééduquer le rire, mais l'humour, c'est peut-être pour ça que j'écris dans ce magnifique journal de Charlie Hebdo. Voilà. Non, le rire, c'est important.
Mais ça vient de quoi, le rire? Enfin, je veux dire, ça, justement, ça se programme pas. Ce sont les situations, les regards,
c'est les situations, les regards. On se moque pas, on se moque pas des gens. On se moque souvent de nous-mêmes. On rit beaucoup des situations. J'en raconte un certain nombre. La situation.
Quelle est la dernière situation qui vous a fait rire?
Mais c'est vaudeville. C'est le gars qui arrive et d'un coup, il arrive avec sa maîtresse et puis. Hop, on téléphone à sa femme légitime, est à la rencontre, tac, et là, ah, le rideau se lève. Bon, mais ça c'est drôle.
Vous laissez se dépatouiller ou vous essayez de lui donner un coup de main pour...
Non, on essaye de faire sortir par des portes dérobées. Non, mais c'est ces situations-là. Et puis on rit beaucoup. L'équipe. Moi, j'ai une vision du travail aux urgences qui est vraiment les infirmières, c'est des collègues de travail. C'est pas parce qu'on a des fonctions différentes. Moi, je traite tout le monde avec la même égalité et ça permet d'avoir des relations qui sont vraiment des relations de travail, pas des relations hiérarchiques. Bien sûr, quand il y a des besoins de resserrer un peu les boulons, on le fait. Mais d'un coup, ça crée vraiment une dimension d'équipe et le rire en fait partie.
Vous lisiez le Larousse médical quand vous étiez enfant ?
Non. Quand j'étais plus petit, je regardais les informations, Roger Gicquel, La France a peur. Et ce qui me rassurait, c'était en fait de voir des gens comme Kouchner, comme Broman. Et c'est ça qui m'a donné envie. C'est la médecine humanitaire qui m'a donné envie de faire de la médecine.
Donc en fait, voilà, c'est face à des situations de gravité qui finalement vous angoissaient.
Oui.
Vous vouliez voir des gens actifs pour amener des solutions.
Oui. De toute façon, je suis comme ça. Voilà. C'est à la fois ma qualité et mon défaut. Qualité parce que l'impatience permet à un urgentiste de ne pas rester le nez dans son café, mais de bouger. Donc l'impatience est bien dans mon métier. Par contre, c'est sûr pour mon entourage et mes proches, des fois, mon impatience, voilà, elle est contestable. Mais c'est comme ça.
Inclus vos enfants ?
Les enfants, ça va bien. Non, ils sont très contents.
Et ils vous interrogent sur votre métier ? Parce que c'est comme, c'est particulier. Ils ont un père médecin, et plus on vous écoute, plus on se dit qu'ils ont un père urgentiste. Ils ont un père dans l'urgence.
Dans l'urgence.
En fait, plus que dans la médecine, même si ça marche ensemble.
Ouais. Non, ils sont très fiers de moi. J'espère je suis sûr qu'ils sont heureux et ça se passe très bien.
Mais est-ce qu'ils vous posent des questions sur la maladie?
Oui. Ils posent des questions sur la maladie, ils posent beaucoup de questions, souvent, et comme tout le monde, lorsque vous avez quelqu'un de malade, de proche ou que vous connaissez bien, ils vous posent souvent des questions. Mais il ne faut jamais, ça c'est une des règles et c'est important, il ne faut jamais soigner ses proches en médecine. Vous pouvez conseiller mais pas les soigner, ça c'est quelque chose de difficile.
Je ne veux pas vous maintenir sur les questions que vous posent vos enfants si vous n'avez pas envie d'en parler parce que un petit garçon ou une petite fille, je ne sais pas quels âges ils ont maintenant. En gros,
15 et 13.
Alors quand ils étaient plus jeunes, ils ont forcément compris que leur père avait affaire alors, avec la santé et pour tout dire avec la mort.
Oui.
Donc j'imagine que ça devait être une source de questionnement de leur part où ils pouvaient peut-être les garder pour eux. Est-ce qu'ils vous entretenaient de ça? Parce que ça ne doit pas être facile de parler aux enfants de ces choses-là.
C'était pas facile et en fait ils en parlaient à leur manière, avec comme le font les enfants, avec des dessins. Où bien souvent ils écoutaient et quelque part ils relativisaient ou ils essayaient de relativiser. Je me souviens d'une phrase que ma fille m'avait dit une fois, parce que j'avais parlé comme ça on avait eu une mort d'une jeune aux urgences qui culpabilise toujours. Il y a que les incrédules qui penseraient que les médecins ne portent pas les décès de leurs malades. Or, tout médecin porte quelque part, un peu ou beaucoup, la mort de quelqu'un. Donc, j'avais ramené ça à la maison, j'en avais parlé et ma fille avait dit « Mais quand tu souris, t'arrêtes la pluie ». Parce que j'avais dit que... Et donc, elle était toute petite et elle avait... cette phrase était très jolie. Donc, c'est souvent, il jouait ce rôle. Mmh. Mmh.
Est-ce que vous êtes en situation de choix, parfois, quand vous arrivez sur le terrain quand le médecin se déplace... Vous savez, je me demande toujours ça quand il y a un accident sur la route.
Oui.
Il y a cinq corps, je vais dire, cinq corps. Oui. Et de qui je m'occupe d'abord et pourquoi ?
De qui je m'occupe d'abord ? Les morts sont morts. Hélas, d'où... et après, il s'agit de réanimer. Fort heureusement, les équipes et le SAMU envoient suffisamment de monde sur place. Mais bien souvent, le choix est difficile. Et on nous prépare pas à ça.
C'est pour ça que je vous interroge là-dessus.
On nous prépare pas à ça. Hein. Non, mais en règle générale, de toute façon, ces études de médecine ne préparent pas au monde professionnel ou aux difficultés du monde professionnel. Ce qui fait que même éthiquement, même encore maintenant. Et c'était l'objet de la chronique précédente dans Charlie, lorsque vous avez quelqu'un qui meurt, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'on fait et comment ? C'est à chaque fois, et chaque cas est un cas particulier, et heureusement.
Je reviens à ma question. Ouais. Il a dû vous arriver, il arrive à vos confrères et consoeurs d'arriver dans un accident de voiture où il y a trois blessés graves, vous êtes deux à pouvoir faire des premiers gestes. Voilà, alors, vous avez
les
tous
plus jeunes.
Alors, quels sont les critères, s'il vous plaît ?
Il y a les critères, c'est selon la gravité, mais généralement, lorsque vous arrivez sur place et que vous avez, ou même au niveau des urgences, lorsque vous avez plusieurs malades d'un coup, vous essayez de gérer. Un médecin n'est pas tout seul, notamment en médecine d'urgence, il ne peut pas être tout seul. Vous avez les infirmières, vous essayez de faire le plus possible, de gérer le plus possible. Mais c'est sûr que lorsque vous avez quelqu'un qui est dans une situation d'écrasement, vous essayez de l'aider à ne pas souffrir, mais vous ne pouvez pas faire l'impossible pour quelqu'un dont vous savez.
Donc un des critères objectifs, vous venez de nous le dire, c'est quand même l'âge.
Bah, l'âge aussi, oui, l'âge. Nous, on l'a vu au moment de la canicule, où d'un coup, vous aviez des personnes qui arrivaient, qui étaient très âgées, qui étaient démentes, qui étaient impotentes, qui ne bougeaient plus de leur lit, qui arrivaient, et vous ne pouviez... Vous aviez tellement de débordements que ces personnes-là, vous essayiez de les soigner, mais vous n'alliez pas jusqu'à la réanimation, l'intubation et tout ça.
Et en même temps, vous êtes un révolté, donc j'imagine que ça doit être difficile. Un révolté contre la mort et la souffrance. Donc le moment où vous commencez à faire des gestes sur quelqu'un et où vous ne pouvez pas les faire sur l'autre, j'imagine que ça doit vous laisser des...
Mais ça laisse toujours des traces.
Des traces.
Mais même quand vous vous occupez de quelqu'un et que vous le perdez, ça laisse des traces. Les cœurs des médecins en général, et plus encore des médecins qui travaillent dans l'aigu, que ce soit les anesthésistes, les réanimateurs, les urgentistes, gynéco, les chirurgiens viscéraux, ça laisse des traces. Vous portez... Quand j'avais commencé médecine, j'avais rencontré un médecin militaire qui m'avait dit « De toute façon, un médecin, quelque part, il a son cimetière personnel. Et vous avez vos regrets. De toute façon, mais quels que soient les métiers, vous vivez avec vos regrets. »
Est-ce que vous en parlez entre vous ou est-ce que la pudeur domine ?
Hélas, quand je vous disais qu'on n'apprend pas en médecine le monde du travail, on n'apprend pas à parler, c'est très rare qu'il y ait des débriefings, c'est très rare, donc c'est très difficile. Vous avez souvent les médecins, ils portent en eux les souffrances. Je me souviens qu'un jour, on avait organisé un débat au niveau des urgences sur la mort. Et vous aviez toute l'équipe qui était revenue et qui avait parlé de décès qu'il y avait eu 2 ou 3 ans auparavant.
Ah oui.
Ils portaient ça en eux, comme si c'était la veille. Et ça, c'est très difficile. On n'apprend pas assez à vivre, finalement.
Donc là, sans donner dans le happening permanent, dans ce qu'on vient de nous dire, on comprend que ce serait important, en particulier en milieu hospitalier, dans ces professions de santé, que vous puissiez parler de vos morts.
Ah oui, oui. C'est peut-être d'ailleurs pas qu'en médecine, mais on s'aperçoit souvent que nous avons une civilisation qui oublie que le temps passe et oublie sa confrontation avec la mort. Pour ça, souvent, quand vous avez notamment des personnes avec un cancer et en fin de vie, les familles n'ont pas été suffisamment préparées. Et ils arrivent au niveau des services des urgences parce que la structure est fermée, parce que c'est la nuit. Et d'un coup, vous vous êtes confronté à l'annonce du décès et vous apercevez que... Il y a 50 ans, les gens mouraient chez eux. Il y avait probablement l'identification à la mort, à son rapport avec la mort, comment la vivre, qui était beaucoup plus présente que maintenant. Maintenant, bien souvent, les gens vous annoncent, et ça devient vraiment, vraiment dramatique pour eux parce qu'ils n'y sont pas du tout préparés.
C'est un métier dont on peut se lasser.
Je crois pas, ou comme n'importe quel métier. On dit souvent, on ne peut pas être urgentiste toute sa vie. Est-ce qu'on peut être chirurgien toute sa vie? Est-ce qu'on peut être anesthésiste, réanimateur toute sa vie? Est-ce qu'on peut être quelqu'un toute sa vie? Non, je crois que c'est ce qui me ferait arrêter, ça serait la lassitude. La lassitude, ou le fait qu'il n'y a plus, où il y a plus de joie à faire ce métier. Mais pour l'instant, ça va.
Quand vous voyez arriver les gens aux urgences, j'allais dire, il y a en vous une envie d'y aller,
c'est ça le... Oui, ça ne me dérange pas, mais même, pour la petite histoire, même cet été, et pour Charlie Hebdo, mais aussi pour l'association, j'étais allé aux fêtes de Bayonne, et d'un coup, vous arrivez aux fêtes de Bayonne, qui était formidable, et qui était quelque chose de génial, et d'un coup, il manquait de médecins, je suis allé prêter main forte toute une nuit... au gymnase Paul Bert, où il y a le poste médical avancé, où il y a eu 250 ivresses.
Ah oui, c'est ça, vous êtes allé donner un coup de main dans l'ivresse généralisée.
Dans l'ivresse généralisée, je suis allé donner un coup de main. Fête de Bayonne qui était formidable et qui ne sont pas du tout un lieu de perdition et de violence. Ils ont réussi à moderniser un truc grâce au travail de personnalités locales fort intelligentes.
Et qu'est-ce que fait l'urgentiste face à l'ivresse généralisée? Alors là, du coup, vous aiguisez ma curiosité.
Ah ben, vous aidez les gens à cuver, vous veillez... Parce que derrière,
mais pardonnez-moi, vous les faites vomir?
Non, pas du tout. Ils cuvent tout seuls leur vin et les diverses boissons qu'ils ont prises, mais vous veillez à ce que personne ait subi un traumatisme crânien et décède. Non, non. Derrière l'ivresse, mais ça, c'est un des trucs typiques de la médecine d'urgence. Mmh. Derrière le petit truc, il faut pas passer à côté de la maladie épouvantable. C'est exactement valable pour la douleur thoracique. Il y a pas plus difficile que ce genre de choses.
Donc ce qu'il y avait de moins important dans la nuit d'ivresse, c'était l'ivresse, si je comprends bien.
Exactement, exactement. Et puis d'un coup, faut veiller à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit en état d'ébriété et qui ait reçu un coup sur la tête ou qui soit tombé, qui soit fait mal et qui ait, par exemple, un hématome dans la tête.
Alors, dans vos chroniques, vous décrivez des situations de vie réelle, d'entrée, de sortie aux urgences. On pourrait dire aussi, c'est rarement harmonieux parce que, par définition, voilà, vous subissez, ils arrivent, oui. La situation est dramatique.
Oui.
Est-ce que de temps à autre, vous avez l'impression qu'il y a un service, chacun est à sa place? Vous voyez ce que je veux dire, comme,
oui.
Que brusquement, tout ça a été bien dirigé, où chacun a trouvé sa place comme il le voulait, ouais. Et que brusquement, pendant 2 heures, vous avez fait, le boulot s'est fait comme c'est ça dans une, ça, parce que ça doit être, en fait, je vous parle du travail d'équipe, voilà.
Ouais. Et ben, moi, je vais vous répondre en termes de musique. La médecine d'urgence, c'est du jazz. C'est-à-dire, en fait, quand vous arrivez, vers du jazz comme ça, vous dites, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est pas de la musique, ça fait pas boum boum régulièrement. Et en fait, quand vous commencez à comprendre comment vous dites, oh là là, mais cette musique, le jazz est extraordinaire. La médecine d'urgence, c'est le jazz de la médecine. C'est quelque chose, voilà, on a l'impression que c'est un grand foutoir, mais en fait, tout est orchestré, ça roule, et c'est vrai que quand vous prenez en charge, par exemple, quelqu'un qui arrive avec un infarctus, que ça swing, et que d'un coup, vous prenez, tac, et là, il est tout de suite pris en charge, et que 2-3 jours après, vous avez la personne qui revient en disant « je rentre chez moi », et ça, c'est merveilleux, et ça marche. C'est pareil pour les équipes de SAMU, de SMUR, c'est pareil pour les pompiers, lorsque vous sauvez quelqu'un, c'est une bouffée de morphine pour vous, pour les équipes, c'est génial.
Et ben ça nous fait une bonne fin pour cette émission, puisqu'on ne peut pas parler de conclusion.
Ah, mais il n'y a pas de conclusion.
Merci beaucoup,
c'est
Patrick
Pelou. C'est moi qui vous remercie.
Histoire gentil. D'urgence, on peut donc retrouver votre livre avec toutes ces chroniques de Charlie Hebdo, paru au Cherche Midi Éditeur.
Et tous les mercredis.
Et tous les mercredis, dans évidemment, dans le journal.
Voilà.